1, 2, 1, 2. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Tu vois, les doigts continuent à se chatouiller un peu. Et je suis très fier de cela. Il suffit que je prends moi sur la guitare. Alors, l'âme et l'esprit y est immédiatement.
Il est produit Ali Farka Touré, qu'on vient d'entendre, mais aussi le Buena Vista Social Club, parmi tant d'autres. Rencontre ce soir avec le Britannique Nick Gold. Franchement, s'appeler Gold quand on produit des disques. Bonsoir Nick Gold. On a dû vous la faire souvent, la blague d'un producteur qui a les mains d'or ou ce genre de choses. Vous avez des surnoms, Nick Gold, dans votre métier?
Non, pas de surnom. C'est Nick, c'est tout, c'est comme ça qu'on m'appelle.
Juste Nick, pour votre label World Circuit, qui publie une nouvelle rencontre inédite entre le trio malien d'Akali et les Américains du Kronos Quartet. Quel circuit entre la sono mondiale? Qu'est-ce qui relie l'Afrique de l'Ouest à Cuba? Quelles histoires politiques et musicales dans ces échanges transatlantiques que vous faites résonner depuis presque 30 ans, Nick Gold, avec votre label? Bah, je vous propose pour commencer un petit survol. Continuons musique, clic.
Viejo, tengo un pie hinchado, tíramelo caracol y a ver.
Ladies and gentlemen, Abdelkader Salim will be performing a solo song with the lute and perhaps the saxophone and guitar.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. ما لو احتجب ودع على غضب ليتها جريب ليتها جريب يشرح السبب يشرح السبب.
Sucede que en los años como en la nieve fueron pasando. Ella siguió esperando aquel amor que nunca llegó. Ay, guarapeña, ahora me llora. Ahora me llora como quiero yo.
Tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata.
Et on atterrit avec Mbongwana Star, c'est peut-être le plus contemporain des disques que vous avez publié ces dernières années, Nick Gold. Mbongwana Star, c'est des musiciens congolais de RDC, associés ici à un batteur d'origine irlandaise, Liam Farrell. Mbongwana, je crois qu'en lingala, ça veut dire le changement. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez commencé votre métier, Nick Gold?
Oh, in what's changed?
Ce qui a changé?
That's a difficult question.
Ça, c'est une question difficile.
Possibly not.
En fait, peut-être pas tant de choses que ça.
That, you know, over the years we've had a little bit more.
Au long des années, on a eu peut-être plus de chance de prendre plus de temps pour faire des disques.
But really how we've worked is
Mais ce qu'on, notre façon de travailler, c'est en fait la même chose.
Just to try and find the best artists.
Depuis toujours trouver les meilleurs artistes et puis de faire les meilleurs disques possibles.
Vous aurez reconnu dans ce mix réalisé par Thomas Beau, le Buena Vista Social Club, Cherlo, le musicien sénégalais, l'Afro-Cuban All-Stars, Abdelgadir Salim, Abdelardo Barroso, de la Cumbia, Orchestra Baobab. Ce montage, il donne un peu le tournis, il mélange beaucoup de choses.
Rien que de le réécouter, tout de suite j'ai souri parce que j'avais oublié certaines choses.
Et surtout vous attendiez pas non plus à certains enchaînements dans le mix.
Yeah, I quite liked it.
Oui, mais ça, j'ai bien aimé.
Alors, pour raconter une histoire de World Circuit, pour aller vite, si on parle des prix, il y a plusieurs Grammy Awards. Avec le Buena Vista Social Club, c'était en 97, qui va remettre la musique cubaine, celle des années 50, 60, au centre de la sono mondiale. Et puis, avec notamment Ali Farka Touré et Talking Timbuktu, aux côtés de Ray Cooder. World Circuit, au départ, c'est une structure fondée à Londres au milieu des années 80 et au départ fondée par deux femmes qui organisaient des tournées, Anne Hunt et Marie Farquharson. Pourquoi est-ce qu'elles font appel à vous, Nick Gold? À l'époque, vous étiez quoi, un ancien étudiant en histoire?
Mary Fox et Anne Hunt avaient cette compagnie qui s'appelait Worldwide et qui était effectivement un tourneur pour des musiciens. Et elles cherchaient des musiciens qui étaient connus localement, mais pas dans le reste du monde. La musique de Grèce, d'Inde, du Soudan, de Venezuela. Et on faisait des tournées de ces musiciens. Et les gens demandaient des disques. Donc elles ont décidé de commencer à enregistrer des disques. Et elles ont appelé ça World Circuit. Elles ont sorti un disque et puis elles ont commencé à chercher quelqu'un pour les aider à continuer. À cette époque, j'avais terminé l'université. Et j'avais effectivement étudié l'histoire. Et je travaillais dans deux magasins de disques. Et où ça me servait surtout à faire grossir ma collection de disques. J'étais fou de ça. Aussi, je travaillais dans des écoles parce que j'essayais de devenir enseignant moi-même. Je faisais du travail bénévole pour un centre de jazz qui allait peut-être être construit à New York, à Londres. Et cette compagnie, j'ai entendu dire qu'effectivement, ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de l'enregistrement des disques. Mes qualifications, c'était simplement que j'aimais les disques et que j'avais travaillé dans des magasins de disques. Je les ai rencontrés, je les ai beaucoup appréciés. Et j'ai commencé immédiatement à travailler avec elles. Je suis tombé amoureux, vraiment. Très tôt, très rapidement, après quelques mois, il y avait Jirati Jazz qui venait du Kenya, qui est venu là, et il a été question de faire un disque tout de suite. Ils étaient très connus au Kenya. Et donc, il faut trouver un studio, Moi, j'ai jamais été dans un studio. C'était vraiment les disques qui étaient vraiment ma passion, plus que d'ailleurs les concerts. J'ai trouvé un studio, on a trouvé un producteur qui avait travaillé avec ce groupe. Je suis rentré dans le studio et le groupe a commencé à jouer. Je me suis assis dans la cabine. On a commencé à faire la séparation, on a commencé à travailler avec la batterie, puis ensuite avec les guitares. Et j'ai été fasciné. J'ai adoré ce travail. On a passé la journée là-dedans et à la fin de la journée, elles m'ont dit « Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. » « Comment ça, on s'arrête ?» J'ai répondu « Comment on peut s'arrêter à faire ça ?» C'est là où je me suis rendu compte à quel point j'étais amoureux des possibilités de la musique qu'on peut faire dans un studio. Et ce qui peut se produire, se passer, ce qui peut se fabriquer avec des musiciens quand ils jouent ensemble, quand ils se retrouvent, avec l'ingénieur du son aussi. C'était dingue.
À quel moment vous devenez producteur, Nick Gold?
Well, I guess.
J'imagine.
Was probably the first
que c'était sans doute avec le premier disque qu'on a fait avec Ali Farka Touré. Parce que je dois admettre que je ne savais pas ce que c'était qu'un producteur. Je n'avais jamais vu quelqu'un produire. On avait Ali dans le studio. Et lui, bien sûr, il avait beaucoup d'expérience. À Radio Mali, notamment. Alors que moi, j'étais plein d'admiration pour lui. Et on est rentré dans le studio et ça a été finalement un album très facile à fabriquer, très facile à enregistrer. On a beaucoup travaillé sur le répertoire, sur le choix des musiques auparavant. On a passé plusieurs semaines ensemble avant d'entrer en studio, à écouter les chansons possibles. On choisissait lesquelles on allait enregistrer. Mais l'expérience même de l'enregistrement, c'était quelque chose qu'il fallait simplement le suivre, c'est tout. Ils avaient trouvé leur son. C'était Mike et les voix, les guitares. Et à la fin de la chanson, il laissait la dernière note mourir. Et puis il commençait la chanson suivante. Et donc, il a joué les six chansons non-stop, en fait. Comme si c'était un concert. On a écouté les bandes, et j'ai dit, peut-être qu'il y en a une ou deux qu'on pourrait refaire. Il a dit, pourquoi? J'ai répondu, peut-être que ça pourrait être mieux. Et mieux pour qui, m'a-t-il répondu. Mais en fait, il l'a fait. Il l'a refait. C'était pas mieux, c'était pas pire, c'était différent. Donc, c'est pas qu'il aimait vraiment être en studio, hein, lui. Je crois pas qu'il aimait pas le côté introspectif que ça donne. En tout cas, c'était très rapide. Et puis, il a mis son casque et il a joué les percussions. Il a joué les percussions exactement de la même façon. Il écoutait les chansons, il jouait, la chanson s'arrête, il la passait au bongo, il jouait les bongos, la chanson se termine, il prenait calabash. Et il m'a dit un jour, le disque fait 40 minutes, m'a-t-il dit, mais en fait, j'ai passé que 30 minutes dessus. C'était son sentiment.
Tu vois, les doigts continuent à se chatouiller un peu. Et je suis très fier de cela. Il suffit que je prenne au moins sur la guitare. Alors l'âme et l'esprit y est immédiatement. L'inspiration, elle est intacte. Elle ne bouge pas. Un petit boulot, mais je suis
Jesus in there.
On me parle de blues. Je viens, mais ce mois, il n'y a pas de blues. Mais il y a la traduction. C'est de la musique de mon pays et c'est de la musique qui m'appartient. Mais en réalité, je veux essayer de faire sortir, c'est-à-dire l'authenticité de ce phénomène pour que le monde puisse comprendre que ça n'appartient pas ni les Anglais ni les Américains. Ça nous appartient. Ce sont eux qui prennent non seulement la musique d'Afrique, la musique n'a jamais été non seulement quittée de chez eux pour venir, mais c'est de l'Afrique que ça a quitté pour aller chez eux.
Et on entendait la voix d'Ali Farka Touré. Il y a une appellation qui est parfois un peu problématique, ou en tout cas qui l'était pour lui, c'était ce mot de blues. C'est un peu la thèse de Martin Scorsese et la série de documentaires qu'il avait produit, c'est de dire que le blues venait d'Afrique et de dire qu'Ali Farka Touré, c'était sans doute l'origine du blues. Mais pour lui, il considérait qu'il ne faisait pas de blues, c'était une appellation qu'on lui accolait.
Yeah, I think that's true.
Oui, je crois que c'est vrai.
I think it's beyond argument.
J'ai l'impression que c'est sûr que le blues vient d'Afrique, ça c'est certain. Et Ali serait d'accord que c'est de la musique qui vient effectivement du Mali, soit. Il y retrouve quelque chose de sa musique dans le blues américain, soit. Mais jamais il ne décrirait sa propre musique comme étant du blues. Je crois qu'une des choses qu'il voulait dire quand il refusait cette appellation, c'est qu'il ne voulait pas qu'on dise qu'il était un imitateur de la musique américaine, qu'il jouait quelque chose qui venait de son pays, de sa terre, et qui peut-être ressemble au blues.
Oui, ce qui fait la singularité d'Ali Farka Touré, c'est d'avoir adapté pour la guitare, des mélodies qui jusque-là étaient jouées sur des gammes pentatoniques, sur des instruments traditionnels, comme la kora, j'imagine. Pourquoi est-ce que c'était important pour lui ce geste de transcription, d'adaptation ? Parce qu'en plus, il y a presque un geste politique dans la musique d'Ali Farka Touré, puisque elle parle en plusieurs langues, elle s'adresse aux cultures songhaï, touareg, bambara aussi.
Ali
a appris à jouer sur une guitare à une seule corde. Et puis, sur un violon à une corde aussi, ces instruments très traditionnels qu'on trouve dans le nord du Mali. Et il était très bon, très très grand musicien là-dessus. Et puis, il a vu une guitare. Il a vu qu'on... C'est un très très grand musicien, Ali. Il était curieux aussi de ce que cela pourrait donner avec sa musique. Et donc, il a transposé sa musique pour la guitare. Donc, il joue vraiment dans le style Ngoni ou Djerko, qui est donc son des guitares à une seule corde, sur une guitare que nous connaissons. Mais une guitare à six cordes, ça lui posait quand même beaucoup de problèmes. Sur une corde, bon, ça va, vous jouez avec, mais avec six cordes, si jamais on ne touche pas les cinq autres cordes, elles deviennent jalouses. Donc, il était nécessaire pour lui de développer un style qui puisse impliquer ces six cordes.
Mais
c'est très similaire la façon dont il a de jouer cette guitare par rapport à son instrument auparavant. Les techniques, les rythmes sont les mêmes.
Vous allez gagner ensemble un Grammy Awards, il fera plusieurs tournées aux États-Unis, en Europe, et à un moment, il en aura assez, il voudra revenir au Mali, et notamment s'occuper de sa ferme, et peut-être même abandonner sa carrière de musicien. Bon, j'imagine que pour le producteur que vous êtes, ça n'est pas un moment très facile, mais du coup, c'est vous qui allez venir à sa rencontre pour aller enregistrer tout près de chez lui, à Niafunke. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces séances d'enregistrement in situ ?
C'était incroyable parce que il voulait. C'était quelqu'un qui voulait vraiment. Il voulait pas faire de tournée. Ça ne lui plaisait pas du tout. C'est pas quelqu'un qui là, sortait de chez lui pour vendre sa musique. C'était pas quelqu'un de marketing, pas un vendeur. Si jamais quelqu'un trouvait sa musique, c'était parfait, mais c'était pas lui qui allait sortir de chez lui et voyager et aller au loin pour ça. Et c'est vrai qu'après plusieurs tournées, il a perdu ses illusions. Et il a voulu retourner à son exploitation fermière, parce que c'était ça son truc, c'était ça son métier, c'était ça qu'il voulait retourner à ça. Je lui ai demandé s'il voulait faire un autre disque. Il m'a répondu oui, mais je ne veux plus voyager. Et il m'a dit qu'il avait perdu cette connexion qu'il a avec sa terre, qui lui permettait de jouer et de créer. On a donc décidé de retourner dans le nord du Mali et de faire l'enregistrement là-bas. C'était difficile, il n'y avait pas d'électricité. On était avec des camions, 4 ou 5 camions, et on s'est rendu là-bas avec tous les générateurs, les ingénieurs du son, les enregistreurs, et c'était Ali qui nous disait où aller, parce que c'était quelqu'un qui dirigeait les chauffeurs, qui savait où il fallait aller. On a trouvé ce bâtiment très étrange, toujours en travaux, près de sur les bords du fleuve Niger. C'était extrêmement beau, tranquille. Et il a fallu qu'on creuse un grand trou dans la terre pour y installer le générateur. C'était un bâtiment étrange, avec des arches, de grandes arches. On a mis en place les micros, il a joué. On ne pouvait pas jouer la nuit, parce qu'il y avait beaucoup de serpents et de moustiques. Et donc c'était le jour qu'on pouvait jouer. Et on avait de l'ombre, c'était bien, parce qu'autrement il faisait très chaud. Mais même pour ça, pour ces conditions-là, il y allait à contre-cœur. Peut-être le deuxième ou troisième jour, il a commencé à dire « Ok, ça va, je suis prêt ». Mais autrement, il traînait des pieds. Autrement, il fallait vraiment le pousser.
Qu'est-ce que vous avez appris de l'homme, Ali Farka Touré, Nick Gold?
Énormément de choses.
Ali.
Je trouvais que c'était quelqu'un qui m'encourageait beaucoup, qui me soutenait. C'était peut-être d'ailleurs le contraire de ce que notre relation aurait dû être. J'ai beaucoup appris de lui. Et aussi pour le label, il a trouvé énormément d'autres musiciens qu'on a ensuite enregistrés. Il m'a présenté Toumani Diabaté. Et il m'a donné la première cassette de Sangaré. Et il m'a dit, ça c'est musique. Avec tous ces musiciens avec lesquels on a travaillé par la suite. C'est grâce à lui.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Il y a une autre histoire qu'il faut qu'on raconte avec vous, Nick Gold, c'est celle du Buena Vista Social Club. Et pour la raconter, cette aventure, le mieux, c'est peut-être d'entendre la voix d'un de ses chanteurs, Ibrahim Ferrer.
Qu'est-ce que tu veux que je te raconte à propos de Ray Cooder? Juan Marcos est assis. Juan ici et Roberto là. Et moi, j'étais là, en train de cirer les chaussures. Bon, parce que j'étais parti et je pensais que plus jamais je jouerais. J'avais pris ma retraite et puis j'avais laissé tomber. Et ces gens m'ont dit que non, et pourquoi, et je sais pas quoi encore. Et moi, j'ai dit non, je veux plus jouer. Pourquoi faire? Et le jour où Juan Marco est venu me chercher, ben, j'ai demandé combien il payait pour un enregistrement. On m'a dit 50 dollars. Attends, 50 dollars? Ça faisait un paquet. Bon, je leur ai dit, laissez-moi au moins me laver. Non, non, ils m'ont dit, on y va tout de suite. La seule chose que j'ai eu le temps de faire, ça a été de changer de pantalon et de me laver les mains. J'ai dû garder la chemise que je portais. Parce que figure-toi, grâce à Raikouder, grâce à Juan de Marco, et sans oublier Compay Segundo, aujourd'hui, notre musique, la musique d'autrefois, la musique des vieux, eh bien, elle retentit à l'extérieur. On doit tout à la jeunesse. C'est elle qui fait bouger les choses. Et nous, les vieux, on suit.
Et on suit, en l'occurrence, un jeune comme à l'époque Juan de Marcos González. Le succès immense de Buena Vista Social Club, il a tenu à quoi, Nick Gold? Vous aviez dit une fois que c'était peut-être au côté fruit caché, fruit défendu de la musique cubaine.
Yeah, I think there's...
Oui, il y a beaucoup de raisons, je crois, pour le succès de cette entreprise. C'était l'époque où beaucoup, où le monde entier pensait à Cuba. Cuba a essayé de s'ouvrir au tourisme. Et dans leur position très difficile, en Amérique, il y avait une ambiance très, très, très différente sur la façon dont ils considéraient Cuba. Le regard de l'Amérique sur Cuba était vraiment très, très différent et compliqué. Mais rien de tout ça n'explique le succès. Ce disque a touché les gens. D'abord, il faut dire que c'est un disque fantastique. C'est indéniable. C'est d'une beauté fantastique. Mais aussi, et ça explique une partie du succès, c'est que c'est la façon dont c'est enregistré. On a vraiment l'impression d'être au milieu de ces musiciens. Parce que ça a été enregistré avec deux micros très très hauts, au-dessus d'eux. C'est pas du tout un enregistrement classique. Hein. Donc on entend exactement ce qui se passe, ce qu'ils jouent. Et puis il y avait une énergie qui sortait de ces musiciens. Et oui, il dit là qu'il avait pris sa retraite, soit, mais c'était le cas de tous. Il y avait cette énergie qui venait d'eux, et qui venait aussi des musiciens plus jeunes. Il y avait ce côté un peu fantastique de cette rencontre. Et puis sur un disque, c'est un peu comme le choix du disque que vous emporteriez sur une île déserte. Parce qu'on est allé là-bas avec une idée de chansons qu'on pourrait enregistrer. Mais on a tout jeté en fait. Hein. On a, au début de l'enregistrement, tous les musiciens avaient des suggestions. Ils voulaient enregistrer leurs chansons préférées. De Ruben, de Eliades, et ce répertoire extraordinaire ressortait. C'était pas un groupe déjà formé qui reprenait ses vieux succès, c'était vraiment des musiciens qui avaient vécu cette musique-là et qui revenaient. C'est très rare, cette situation-là. On a une chance énorme d'avoir ces musiciens-là, de les retrouver. Et surtout ensemble, et surtout Ibrahim.
Nick Gold, le succès de Buena Vista Social Club, et puis décuplé en plus par le film de Wim Wenders, qui va le faire connaître à encore plus de monde. Il va vous valoir d'un côté le succès, mais aussi forcément, il y a toujours un revers, des reproches. Alors il y a les gens qui vous disent, on entend Chan Chan depuis des années, on n'en peut plus de cette chanson. Et puis, mais il y en a d'autres qui ont été plus sévères et qui, par exemple, vous accusaient de reproduire une logique coloniale. Comment est-ce qu'on fait face à ce genre de critiques?
Il faut dire que parfois moi-même j'en ai eu marre d'écouter Chan Chan. Mais quand on le joue au début, il y a quelque chose de au début, je trouve toujours ça beau quand même, hein, au début. Mais c'était la musique que j'aimais. Je ne pensais pas que ce soit représentatif de la musique cubaine, des années 90 ou contemporaine. On est allé là-bas pour enregistrer de la musique qu'on aimait. Et moi, je défie toute personne de trouver ces musiciens et de ne pas faire un disque avec eux. Pourquoi ne pas faire un disque avec eux? Pourquoi ne pas les enregistrer? Voilà. Peut-être qu'on peut me critiquer. Mais je suis tout à fait. Mais tout le monde est libre d'aller écouter d'autres musiques.
Et ce qui est beau aussi, Nick Gold, si vous l'avez raconté des années après, Buena Vista Social Club, c'est un échec pour vous au départ, puisqu'en fait, votre volonté, c'était de réunir non seulement ces musiciens cubains fabuleux qui n'avaient pas joué, qui n'avaient pas enregistré depuis des années, mais aussi des musiciens maliens que vous vouliez faire venir à Cuba pour qu'ils enregistrent ensemble. Et c'est ce que vous réussirez à faire quelques années plus tard avec Afro-Cubisme. Et le Mali s'invite à Cuba avec ce projet Afro-Cubisme. Qu'est-ce qui avait fait que ça n'avait pas pu opérer cette rencontre entre les Maliens et les Cubains, Nick Gold? Qu'est-ce qui vous donnait l'idée que forcément ça allait fonctionner entre eux?
L'idée au départ pour Buena Vista, c'était effectivement d'amener des musiciens maliens, Djedi Mani Tunkara, le guitariste, et Basiku Kouyaté, de les amener donc à Cuba. On avait travaillé sur la liste des chansons, on avait cherché des musiciens cubains. J'avais invité Ray Cooder parce que j'avais travaillé avec Ali Farka Touré. Et donc on avait travaillé, on avait planifié. Et à la dernière minute, on s'est aperçu que les passeports maliens avaient été perdus quand ils avaient essayé d'obtenir des visas pour Cuba. Et donc, on a continué, on a fait le disque sans eux. Mais c'était pas une idée si bizarre que ça. La musique cubaine est très populaire au Mali. Et la première fois que j'ai connu la musique cubaine, c'était parce que je travaillais en Afrique et c'est là où je l'avais entendue. Le Mali et surtout le Sénégal. Là-bas, la musique cubaine était très populaire dans les années 30, 40. Et là-bas, on entend vraiment souvent de la musique dans toute l'Afrique occidentale. Ali Farka lui-même, d'ailleurs, il écoute beaucoup de cette musique. Donc, c'était pas si étrange comme combinaison. C'était très naturel, finalement.
Afro-cubisme, c'est donc cette rencontre entre des musiciens maliens, par exemple le chanteur Kassemadi Diabaté, Basiku Kouyaté, Toumani Diabaté aussi, et puis qui vont jouer donc avec des musiciens cubains, Grupo Patria, et puis notamment le guitariste et chanteur Eliades Ochoa. Il n'y a pas de piano dans ce disque. Pourtant, c'est très important, le piano, dans la musique cubaine. Pourquoi vous avez retiré le piano?
Ça, c'est vrai. Le piano, c'est vraiment central. Mais l'idée d'origine de Buena Vista, c'est de faire un disque de guitare et d'écouter la musique vraiment de l'Est de Cuba. Et donc, on avait construit le disque autour de Eliades. Et c'est une fois qu'on est arrivé là et que les Maliens ne sont pas venus, qu'on a changé l'idée. Aussi, on voulait que Ruben soit mis en avant, parce qu'il n'était pas dans notre idée. On est tombé amoureux de Ruben et bien sûr on l'a inclus. Donc, l'idée, c'était beaucoup plus dès le départ de faire quelque chose orienté autour des guitares. Et puis, les guitares, finalement, en fait, surtout quand la musique cubaine est devenue populaire au Mali, ils transformaient la partie de piano en guitare. Et donc, dans ces musiques-là, le rythme vient beaucoup des guitares, et ça vient de la partie de piano d'origine. Aussi, en Afrique, on ne trouve pas beaucoup de pianos. Et donc, voilà. Donc, l'idée d'origine était de faire effectivement un album qui soit afro-cubain et donc sans piano.
On traverse à nouveau l'Atlantique avec, ça c'est une actualité de votre label World Circuit, c'est ce disque, La Dilicane. L'ouverture pour le moins somptueuse de cette rencontre entre le trio d'Akali et le Chronos Quartet. Ça, c'est l'album La Dilicane qui vient de paraître sous votre label Nick Gold, le label World Circuit. D'Akali, ça c'est le nom du trio malien, ça veut dire prêter serment. À quelle parole est-ce qu'il faut être fidèle, ou à quel serment est-ce qu'il faut être fidèle quand on enregistre un disque de collaboration, un disque un peu crossover comme celui-ci?
Je crois que prêter serment, c'est prêter serment envers leur propre tradition. La musique qu'ils font peut remonter, je crois, au 15e siècle. Ce trio, cette idée de trio, avec le balafon, la voix. Et puis un bolon, il y avait. C'était ça la base, qui a été remplacée par. Par un instrument qui joue à peu près la même partie.
Alors le morceau qu'on vient d'entendre, Tita Wati, il parle du mariage arrangé, des commérages, comme de la mort qui n'épargne personne. Avec les années, Nick Gold, vous avez appris un peu les langues des musiques que vous produisez, par exemple le bambara ou l'espagnol que parlent les Cubains.
I've learned bits.
Oh, j'ai des petits bouts. Donc je peux en comprendre. Un peu, mais ça, d'ailleurs, c'est utile. Les musiciens ne se rendent pas compte que je peux parfois les comprendre. Parce que je mets ça, pas ça vraiment. J'ai pas le courage de parler, je me mets pas en avant, je peux pas prononcer des choses. Mais je trouve ça ultra décevant et triste de ne pas avoir appris plus.
Alors, vous l'avez dit, Nick Gold, dans cette rencontre, il y a d'un côté le trio d'Akali, les Maliens, donc une chanteuse, un ngoni, c'est une sorte de luth, et puis un balafon. De l'autre côté, des Américains du Chronos Quartet, eux, c'est des musiciens qui... c'est une formation de chambre internationale qui est vraiment connue dans le monde entier. Depuis les années 70, ils jouent aussi bien le répertoire contemporain, la musique minimaliste, que des pièces grand public ou des musiques de films. Il s'était déjà intéressé à la musique non occidentale. Je crois qu'il avait fait un disque qui s'appelait Pieces of Africa en 92. Il n'en reste pas moins que le Chronos Quartet, c'est des musiciens très différents de ceux que vous enregistrez d'habitude, puisque eux viennent d'une tradition écrite. Alors que d'habitude, vous travaillez avec des musiciens qui font tout à l'oreille.
Oui, et au début, ça a été très difficile. Parce qu'effectivement, ce sont deux grandes traditions de chambre. C'était vraiment extraordinaire d'essayer de les mettre ensemble. Ces arrangements avaient été faits à partir des enregistrements, ces démos, mais les Maliens ne pouvaient pas s'y tenir à chaque fois. Donc, les cordes ont été enregistrées sur une musique qui, forcément, était changeante. C'était difficile pour tous les artistes. Les Maliens devaient essayer de rester dans le cadre de l'arrangement. Mais ils ont réussi assez rapidement à trouver un terrain d'entente. Les Maliens étaient très étonnés et complètement surpris quand ils ont entendu pour la première fois les arrangements de leur propre musique. Mais ça ne peut pas marcher à tous les coups.
Le trio d'Akali qui sera en concert ce dimanche à 17h au musée du Quai Branly à Paris. Et puis ce trio d'Akali qui jouera avec le Kronos Quartet pour entendre la rencontre des deux. Ce sera au festival, l'excellent Jazz sous les pommiers à Coutances le 11 mai 2018. Pour le disque, bien sûr, je vous renvoie à cet album qui vient de paraître sous le label World Circuit. David Harrington, le violoniste et directeur artistique du Kronos Quartet, y voit dans cette rencontre une de leurs plus belles réalisations. Alors ça, on a envie de dire, évidemment. Vous, Nick Gold, qu'est-ce qui vous a séduit dans cet enregistrement qui a eu lieu en Suisse?
Je crois que tout me séduit dans ce projet. Le trio lui-même, je les connaissais. Rien que de regarder des répétitions. Et puis, même individuellement, ils sont chacun complètement épatants. Collectivement, ils ont créé ce petit ensemble aujourd'hui qui a un son tellement fort par rapport simplement chacun séparé. Et puis, il y a un groove, il y a un swing. Et puis, le quartet à cordes s'accorde tellement avec eux, il les entoure. Et c'est idéal comme situation. Et c'est enthousiasmant. C'est très émouvant. C'est joué avec tellement de sympathie. Et de regarder cette rencontre. Et puis ça s'est fait très rapidement, ce disque, hein. 3 jours d'enregistrement. Et pour un groupe comme ça, qui n'avait pas joué auparavant ensemble, c'était tout à fait étonnant. Et ils tous enregistrés dans un seul studio, hein, le même studio.
Nick Gold, vous menez avec World Circuit un travail d'enregistrement, de création, de rencontre entre les musiciens, mais il y a aussi tout un travail de réédition. Je pense par exemple à deux compilations de classiques colombiens, des compilations de cumbia qui sont très recherchées, ou encore à ceci qui nous ramène du côté de Cayo Hueso dans les années 60.
La noche. noche y tú,
la noche y tú,
vive la luna enamorada, y al contemplarle su mirada me hace revelación que me estasía, raro esplendor de fantasía que vive en ti. Perfume de tu aliento en un suspiro, rendida cariño por mi voz, llevarte más allá del infinito, ardiendo en la fiebre de mi amor. Locura azul, intimidad maravillosa, aprisionada por la noche y por mi amor. Locura azul, locura azul.
Los Zafiros, La Luna en tu Mirada. Qu'est-ce qui fait la singularité, bon, le morceau est extraordinaire, mais la singularité de ces saphirs dans l'histoire de la musique cubaine? Parce que Nick Gold, on pouvait les voir, Los Zafiros, dans le film Soy Cuba de Mikhail Kalatasov. Et vous me disiez, en l'entendant, qu'ils avaient eu beaucoup de succès en France. Ils étaient venus jouer à l'Olympia?
Yeah, I mean that group was very,
oui,
very popular.
C'était un groupe
in Cuba
très, très, très populaire dans les années 60 à Cuba. Et c'est un style très unique. Ces quatre voix, même individuellement, sont incroyables. Sur cette chanson-là, il y a quand même deux chanteurs qui sont mis en avant. C'est Ignacio qui fait la voix haute ou perchée. Et il y a cet hybride, ce résultat hybride étrange que ça provoque. Ils étaient extrêmement populaires, ils ont fait une grande tournée. Et ils parlent d'un concert qu'ils ont fait à l'Olympia, là où il y avait les Beatles. Et ils disent, ils racontent que les Beatles sont venus les rencontrer pour leur dire oh, « Vous êtes géniaux, on vous adore ».
Il se trouve que dans Los Zafiros, en tout cas dans ce disque, vous me disiez, dans le morceau qu'on vient d'entendre, il y a deux musiciens avec qui vous allez travailler plus tard, le contrebassiste et le guitariste. Vous avez eu de la chance parce que je crois que la plupart des autres musiciens, ils avaient une vie très dissolue, de gros problèmes d'alcool, il y en a qui sont morts très jeunes.
Yeah, all of them.
Ah oui.
I'm not sure if one of them.
Je suis pas sûr qu'il y a toujours un survivant, mais certains sont morts jeunes. Oui. Ils ont vu une vie très pleine et très rapide dans les années 60. Mais le bassiste, il était sur tous les disques par la suite. Et puis Galban, qui était sur le disque de Ibrahim Ferrer. On a recréé certaines de leurs chansons sur le premier album d'Ibrahim. Cet enregistrement était fait, pour Zafiros, c'était vraiment dans le même studio que celui où nous avons travaillé aussi. L'endroit le plus, le studio le plus merveilleux, le plus magnifique dans lequel j'ai jamais travaillé. C'était le studio Egram. Mais il y a deux studios Egram. Il y en a. Là, je parle de celui qui est le plus ancien, celui qui est dans le centre de la Havane, qui est construit dans le milieu des années 50 pour Panart, qui était une compagnie indépendante cubaine, qui est bien sûr ensuite a été nationalisée. C'est là où tous les disques étaient enregistrés à Cuba. Et ça fait partie, c'est important, ça fait partie vraiment du son produit de la musique à cette époque.
Alors, on va traverser une fois encore l'Atlantique dans l'autre sens, avec un travail... D'abord, ça a été un travail de réédition de votre part, et puis ensuite de création avec Orchestra Baobab, spécialiste dans tous les styles, comme le disait un de leurs albums. On écoute un disque récent qui est paru en 2017.
Kumba la suro, nimiri kanilema, ma wuli soma, wanya miri kanilema, alu yandi yandi la.
Extrait de l'album d'Orchestra Baobab paru en 2017. En lisant les notes, on apprend que le chanteur Bala Sidi Bé nous dit que les grandes chansons du passé ne doivent pas dormir. Et pour cause, puisqu'il faut danser. Vous êtes danseur, Nick Gold, quand on produit ce genre de musique, c'est presque obligatoire.
Yeah, in my head.
Oui, dans ma tête.
Au départ, Orchestra Baobab, c'est un groupe sénégalais qui joue de la musique cubaine. Donc ça, c'est, vous nous l'avez expliqué, c'est comme ça que s'est construit votre intérêt pour la musique cubaine, en commençant par l'Afrique de l'Ouest. C'était, j'imagine, pour des raisons politiques, puisque beaucoup de ces pays ont connu un régime socialiste, communiste, et donc il y a eu des échanges nombreux entre les musiciens et les pays. Comment est-ce que vous les découvrez, et comment est-ce que vous allez rééditer ce Pirate's Choice, qui est un vieil album d'Orchestra Baobab?
Je crois que beaucoup des influences de la musique cubaine en Afrique occidentale remontent à bien avant les périodes socialistes. Parce que la Havane et Dakar ont des ports très importants. Et beaucoup de musique s'enregistre dans les ports. Il y a un mélange de styles, comme la Nouvelle-Orléans, même Londres, Liverpool. Et donc il y avait déjà beaucoup d'échanges de musique et de musiciens. Mais c'est vrai qu'il y avait des échanges, puisque le gouvernement malien envoyait également des musiciens à la Havane. Et des musiciens venaient en retour, et donc il y avait des échanges culturels. Mais ce disque-là, celui que nous avons ressorti, c'était le premier, peut-être le premier disque africain que j'ai jamais entendu. Quelqu'un en avait une version vinyle, et c'était simplement écrit Orchestra Baobab sur la couverture. Je ne savais même pas d'où il venait. Et on m'a donné une cassette. À cette époque-là, On passait, on mettait une cassette et l'appareil finalement était auto-reverse et donc passait la suite. Ça ne s'arrêtait pas de jouer et donc j'écoutais ça sans cesse. Et ça m'a frappé. C'était le disque parfait. Et qui avait des influences qui venaient de plusieurs régions du Sénégal. De Wolof, de Guinée-Bissau. Les musiciens viennent de territoires très différents et de nationalités très variées. C'est un melting pot. Comme Dakar est un melting pot, avec beaucoup d'influence cubaine aussi. Et donc, et puis aussi, c'était un disque qui était extrêmement piraté, et donc il n'en existait que des versions pirates. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Pirate's Choice. Aussi, ce disque a une qualité particulière. C'est comme si vous écoutiez à un concert privé. Il y a une intimité qui est merveilleuse. On dirait qu'ils jouent d'une façon pour eux-mêmes et d'une façon très dynamique. Et c'est comme si on était là, comme une petite souris, et comme si jamais on écoutait cette performance-là. C'est vraiment un disque d'île déserte. Moi, je ne pourrais jamais m'en fatiguer. Et donc, on a contacté les musiciens et on a pu leur sortir. Jamais j'aurais pu imaginer que je rencontrerais ces gens. C'était un rêve. J'y connaissais rien du tout à l'époque. C'était vraiment un rêve. Et finalement, j'ai pu travailler avec eux.
Merci Nick Gold.
Merci.
C'est toi qui m'as béni, que j'étais la lumière de ta vie. C'est toi qui m'as béni, que le ciel serait toujours bleu. Mais toi tu es parti, en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi tu es parti, en me disant que tout était fini.
Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé.
Continent Musique touche à sa fin. Merci Nick Gold d'être venu dans notre émission. L'actualité de votre label World Circuit, c'est le nouvel album du trio Dakali et de Chronos Quartet. Ils seront en concert dimanche, le trio Dakali au musée du Quai Branly. Et si vous voulez les entendre avec le Chronos Quartet, ce sera le 11 mai au festival Jazz sous les Pommiers.
C'est toi qui m'avais dit que j'étais la lumière de ta vie. C'est toi qui m'avais dit que le ciel ne serait toujours bleu. Et toi tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi tu es parti en me disant que tout était fini.
Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé.
Merci à Harold Manning d'avoir assuré la traduction de vos propos. Toutes les informations et la programmation musicale sont à retrouver sur la page internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr ainsi que la réécoute et le podcast. Abonnez-vous, ça ne coûte rien et vous y apprendrez tout. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, à la prise de son ce soir Pierrick Monsigny, à la réalisation Thomas Beau. Merci à Annie Lozana de Lina pour les archives. Les programmes continuent sur France Culture avec Mauvais Genre de François Angeli à 22h, mais tout de suite, Les Papous dans la tête de François Stressart et Samedi Noir. Très bonne soirée à tous.